Chapitre 3. Gaston froissa le billet de Madame Benoît et l'enfonça dans sa poche. Puis il se retourna vers Jacquet, qui le regardait niaisement en roulant sa casquette entre ses mains. « Madame la marquise, ne t'a rien dit ?»« Mademoiselle ?»« Oh non, monsieur, elle ne m'a pas seulement regardé. »« Y a-t-il un chemin de traverse pour aller à Dieuze ?»«
Oui, monsieur. »«
Il abrège ?» Oh, d'un bon quart d'heure. Mais assèle-moi Fort Douard de Indiana. Attends, je vais t'aider. Tu me montreras le chemin. Un louis pour toi si nous arrivons avant la voiture. » Une demi-heure après, Jacquet en blouse et le marquis en habit de noces s'arrêtaient devant le poste de Dieuze. Jacquet réveilla un garçon d'écurie et s'informa si on avait demandé des chevaux dans la nuit. La réponse fut bonne. Aucun voyageur ne s'était montré depuis la veille. « Tiens, » dit le marquis à Jacquet, « voilà les 20 francs que je t'ai promis. »« Monsieur, » reprit timidement le petit palefrenier, « les louis ne sont donc plus de 24 francs ?»«
Mais il y a longtemps, Nigo. »«
Oh, c'est mon grand-père qui m'avait toujours dit cela. De son temps, 2 louis et 40 sous faisaient 50 livres. » Gaston ne répondit rien, il avait l'oreille tendue vers Arlange. Jacquet poursuivit en se parlant à lui-même. « Comment se fait-il que de si belles pièces d'or soient tombées à ce prix-là » « Écoute, » dit le marquis, « n'entends-tu pas une voiture ?»«
Non, monsieur, oh, c'est bien malheureux. »«
Quoi ?»«
Que les louis d'or soient tombés à 20 francs. »«
Oh, animal, en voici un autre et tais-toi. » Jacquet se tut par obéissance. Il se contenta de dire entre ses dents « C'est égal. Si les louis étaient encore à 24 francs, 2 louis que voici et 40 sous que madame m'a donné me feraient juste 50 livres. Ben, les temps sont durs, comme disait mon grand-père. » Gaston attendit une grande heure sans descendre de cheval. À la fin, il craignit qu'un accident ne fût arrivé à la voiture. Jacquet le rassura.
« Oh, monsieur, lui dit-il, il est peut-être bien possible que ces dames aient gagné la route royale sans passer par Dieuze. »«
Mais courons, » dit le marquis.
« Oh, c'est pas la peine d'aller, monsieur, elles sont tout près de 2 heures d'avance. »«
Bon, eh bien, ramène-moi chez nous par la route. » La maison restait telle que Gaston l'avait quittée. La berline n'était pas sous la remise et il manquait 2 chevaux à l'écurie. On entendait au loin un bruit de violons ingres, aigres et de chansons discordantes. C'est les ouvriers et les paysans qui dansaient en plein air. Gaston songea d'abord à s'assurer le silence de Jacquet et le secret de sa poursuite nocturne. Il ne trouva pas de meilleur moyen que d'envoyer son confident à Paris. « Va prendre la diligence de Nancy, lui dit-il. » « Ah, Nancy, tu t'embarqueras dans la rotonde pour Paris. Tu te feras conduire à l'hôtel d'Outreville, rue Saint-Dominique, 57. Et tu diras à Madame Benoît que j'arriverai dans 2 jours. Allez, voici de quoi payer ta voiture. »«
Monsieur, » demanda Jacquet d'une voix insinuante, « si je faisais la route à pied, est-ce que l'argent serait pour moi ?»
Il reçut pour réponse un coup de pied péremptoire, qu'il éloigna d'Arlange en le rapprochant de Paris. Gaston, rompu de fatigue, remonta au second étage et se jeta sur son lit, non pour dormir, mais pour rêver plus posément à son étrange aventure. La fuite de Lucie, au moment où il se croyait le plus sûr d'en être aimé, lui semblait inexplicable. Évidemment, ce départ était prémédité. Il eût été impossible de le préparer en un quart d'heure. Mais alors, toute la conduite de la jeune femme était un mensonge. Le bonheur qui éclatait dans ses yeux, la douce pression de sa main au milieu des tourbillons de la valse, les délicieuses paroles qu'elle avait murmurées 1 heure auparavant à l'oreille de son mari, tout devenait tromperie, amorce et mauvaise foi. Cependant, si elle ne l'aimait pas, pourquoi l'avait-elle épousé ? C'était si facile de dire un non au lieu d'un oui. Sa mère ne l'aurait pas contrainte puisqu'elle favorisait sa fuite.
Gaston se rappela alors la discussion animée qu'il avait soutenue le matin même contre Madame Benoît. Il comprit sans difficulté le dépit de la veuve et de sa vengeance. Mais comment cette mère ambitieuse avait-elle pu, en moins d'un jour, retourner le cœur de sa fille? Pourquoi Lucie n'avait-elle pas écrit un mot d'explication à son mari? Cette idée l'amena tout naturellement à chercher dans sa poche le billet de Madame Benoît. Il y remarqua un mot qui lui avait échappé à la première lecture. « Votre femme et votre argent. » En vérité, c'était bien d'argent qu'il s'agissait. Comme si l'argent était quelque chose pour celui qui voit crouler tout le bonheur de sa vie. Qu'importe une misérable somme à celui qui a perdu ce qu'on ne saurait acheter à aucun prix. Votre femme et votre argent. Mais cela ressemblait à la lugubre plaisanterie des cours d'assises qui condamnent un homme à la peine de mort et aux frais du procès. Gaston s'imagina bien à tort que sa belle-mère n'avait écrit ce mot que pour lui rappeler la position modeste dont elle l'avait tiré, et sa dignité ombrageuse en fut révoltée. À force de relire ce malheureux billet, il se persuada que ce serait une honte de partir pour Paris sans qu'on sût s'il courait après sa femme ou après son argent, et il résolut de rester à Arlange tant que Lucile ne lui aurait pas écrit. Cette décision l'entraîna dans une dépense d'esprit et d'amabilité qu'il n'avait pas prévue. La nouvelle du départ de la marquise s'était répandue avec une vitesse électrique, et comme on n'avait jamais ouï dire à 4 lieues à la ronde qu'un bal de noces eût fini de la sorte, tous ceux qui avaient dîné ou simplement dansé à la forge y coururent en toute hâte sous le prétexte naturel d'une visite de digestion. Le marquis fit tête à cette armée de curieux, de façon à prouver au plus difficile qu'il était homme du monde lorsqu'il en avait le temps. Durant une semaine, la maison ne désemplit pas, et il ne témoigna nul ennui de passer moitié du jour au salon. Cette petite foule altérée de scandale fut stupéfaite de son air tranquille, de sa voix naturelle, de sa figure heureuse et souriante. Il raconta, qui voulut l'entendre, que depuis plus de 15 jours, Madame Benoît avait à Paris des affaires urgentes qui réclamaient sa présence et celle de sa fille, et qu'en bonne mère, elle n'avait pas voulu retarder pour cela le mariage de Lucile. Qu'en sage administrateur, elle avait voulu laisser un homme sûr à la tête de la forge, et qu'en gracieuse maîtresse de la maison, elle n'avait pas gêné ses invités par l'annonce d'un si prochain départ. Si quelqu'un prenait un visage de condoléance et semblait plaindre les victimes d'une séparation si intempestive, Garçon s'empressait de rassurer cette bonne âme en lui apprenant que sous peu de jours, le mari, la femme et la belle-mère seraient définitivement réunis. Non content de tromper les curieux et les malveillants, il prit la peine de les charmer. Il déploya en leur faveur ses grâces naturelles et acquises. Il s'installa dans le cœur de toutes les femmes et dans l'estime de tous les hommes. Il approuva tous les ridicules, il donna tête baissée dans tous les préjugés, et il berna si savamment son auditoire qu'il fit la conquête de tout le canton. Cela peut arriver au plus honnête homme. Le premier résultat de cette comédie fut de lui donner 150 amis intimes, le second fut de persuader à tout le monde que son récit était la pure vérité. La vérité, la voici. Après le bal, Lucile, le cœur serré par une joie inquiète, suivit sa mère dans son appartement. À peine entrée, Madame Benoît la dépouilla en un tour de main de sa robe blanche, l'enveloppa dans un peignoir épais et lui jeta la châle sur les épaules, tandis que Julie remplaçait les souliers de satin par une paire de bottines. Sans lui donner le temps de s'étonner de cette toilette, sa mère lui dit vivement, tout en changeant de robe, « Ma belle chérie, Gaston s'est rendu à mes prières. Nous partons pour Paris à l'instant. »« Déjà, il m'en a pas encore parlé. »« C'est une surprise qu'il te ménageait, cher enfant, car au fond, tu regrettais bien un peu de ne pas voir ce beau Paris. »« Oh non, maman. » « Mais tu le regrettais, ma fille. Je te connais mieux que toi-même. On frappa discrètement à la porte. Madame Benoît tressaillit. « Qui est là » demanda-t-elle. « Madame, répondit la voix de Pierre, la berline de madame est attelée. » La veuve entraîna sa fille jusqu'à la voiture. « Vite, vite !» lui dit-elle. « Nos gens sont à Cancé. S'ils avaient vent de notre départ, il faudrait subir leurs adieux. »« Mais j'aurais bien voulu leur dire adieu, » murmura Lucille. Sa mère la jeta au fond de la berline et s'y lança après elle. « Et Gaston ?» demanda la jeune femme, complètement étourdie par ses mouvements précipités. « Viens, mon enfant, viens. Pierre, où est monsieur le marquis ?» La leçon de Pierre était faite. Et il répondit sans embarras, « Oh, madame, monsieur le marquis fait charger les bagages sur la vieille chaise. Il prie madame de l'attendre une minute ou deux. » Lucille, poussée par une inspiration secrète, essaya d'ouvrir la portière. La portière de droite, soit hasard, soit calcul, refusa de s'ouvrir. Pour arriver à l'autre, il fallait passer sur le corps de sa mère. Son courage n'alla point jusque-là. « Julie, dit-elle, voyez donc ce que fait monsieur le marquis. » Julie, qui était depuis 15 ans au service de madame Benoît, partit, revint et répondit. « Madame, monsieur le marquis prie ces dames de ne pas l'attendre. Un trait s'est brisé. On le raccommode. Monsieur rejoindra au relais. » Au même instant, Pierre s'approcha de la portière de gauche et madame Benoît lui dit à l'oreille « Prends la traverse, brûle-dieuse, et droit à Moyenvic. » La voiture partit au grand trot. C'était en vérité une singulière nuit de noces. Madame Benoît triomphait de quitter Arlange et de rouler vers le faubourg en compagnie d'une marquise. Elle se plaignit de la fatigue, de la migraine, du sommeil. Elle se retrancha, les yeux fermés, dans un coin de la berline, de peur que les réflexions de sa fille devinssent troubler la joie tumultueuse qui bouillait dans son cœur. La pauvre mariée, sans craindre la fraîcheur de la nuit, allongeait le cou hors de la portière, écoutant le souffle du vent et plongeant ses ruards humides dans l'obscurité. Au relais de Moyenvic, madame Benoît jeta le masque et dit à sa fille, « Ne vous écarquillez pas les yeux à chercher votre mari, vous ne le reverrez qu'au faubourg Saint-Germain. » Lucille devina la trahison, mais elle avait trop peur de sa mère pour lui répondre autrement que par des larmes. « Votre mari, poursuivit la veuve, est un obstiné qui refusait de vous conduire dans le monde. C'est dans votre intérêt que je lui ai forcé la main. Il vous aura rejoint dans les 24 heures s'il vous aime. Il n'y a pas de quoi pleurer comme une nagare dans le désert. Je suis votre mère, je sais mieux que vous ce qui vous convient. Je vous mène à Paris, je vous sauve d'Arlange. » « Oh, mon pauvre bonheur !» s'écria l'enfant en tordant ses mains. « De quoi vous plaignez-vous? Vous l'aimez et vous l'avez épousé. Vous êtes marié, mais que vous faut-il de plus ?»« Ainsi, dit Lucille, voilà donc le mariage. Ah, mais j'étais bien plus heureuse quand j'étais fille. Je voyais mon mari. » D'Arlange à Paris, il ne se lassa point de regarder par la portière. Il lui semblait impossible que Gaston ne fût pas à sa poursuite. Dans chaque voiture qui soulevait la poussière de la route, sur tous les chevaux qui accouraient au galop derrière la berline, elle croyait reconnaître son mari. Ce voyage, qui étouffait de joie sa triomphante mère, fit pour elle une série interminable d'espérances et de déceptions. Paris sans Gaston lui parut une immense solitude, et le faubourg Saint-Germain, abandonné par la moitié de ses habitants, fut pour elle un désert dans un désert. Le lendemain de son arrivée, le premier objet qu'elle aperçut en ouvrant sa fenêtre fut la figure de Jacquet. Elle descendit en moins d'une seconde. Gaston devait être à Paris. Elle apprit que, s'il n'était pas arrivé, il ne tarderait guère, et je vous laisse à penser si elle fêta le messager d'une si bonne nouvelle. Tandis que Madame Benoît dormait encore du sommeil des heureux, Jacquet raconta les moindres détails du voyage à Dieuze. Mais comme il m'aime, pensa Lucile. Oh, je crois même qu'elle pensa tout haut. Pour vous finir l'histoire, poursuivit Jacquet, Monsieur le marquis doit me devoir une pièce de 8 francs. Mais en voici 20, mon beau Jacquet. Oh, merci bien, mademoiselle. Je ne suis pas positivement sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'il me les doit. Enfin, j'avais fait mon compte, comme quoi il me devait 24 francs, il m'en a donné que 20. C'est donc 4 francs au moins. Et puis, il m'a encore une fois donné que 20, c'est encore 4 francs. Et comme 24 et 15, 4 font 8, cependant, je peux me tromper. Et si vous voulez que je vous rende, me garde, garde, mon garçon, et va te reposer de ton voyage. Elle courut au jardin et moissonna des fleurs comme un jour de fête Dieu, pour que sa chambre fût belle à l'arrivée de Gaston. Jacquet la regarda partir en se disant à lui-même « 62 francs, c'est un mauvais compte, comme disait mon grand-père. » Et il supputa sur ses doigts combien il faudrait encore de louis d'or et de pièces de 40 sous pour faire 100 francs. Le jour se passa et le lendemain et toute une semaine, sans nouvelles du marquis. Madame Benoît cachait son dépit. Lucile n'osait pas se désoler devant sa mère, mais elle se dédommageait bien, l'une en pestant, l'autre en pleurant pendant la nuit. Du matin au soir, la mère promenait sa fille dans une voiture blasonnée, sans laquais et sans poudre, car le célèbre carrosse était encore sur le chantier. Elle la conduisait aux Champs-Élysées, au bois, et partout où va le beau monde, pour lui donner le goût de ces plaisirs de vanité qu'on ne savoure qu'à Paris. En l'absence des Italiens, elle lui faisait subir de lourdes soirées au théâtre français et à l'opéra. Mais Lucile ne prit goût ni au plaisir de voir, ni au plaisir d'être vue. En quelques lieux que sa mère la conduisit, elle y portait le désir de rentrer à l'hôtel et l'espoir d'y trouver Gaston. Madame Benoît devina avant sa fille que le marquis boudait sérieusement. Comme elle ne manquait pas de caractère, elle eut bientôt pris un parti. « Ah !» se dit-elle, « Monsieur Bonjean ne se passe de nous. Eh bien, essayons un peu de nous passer de lui. Qu'est-ce qui me manquait autrefois pour me mêler au monde du faubourg ? Des armes et un nom, j'avais tout le reste. Aujourd'hui, il ne nous manque plus rien. Nous avons un bel écusson sur nos voitures, nous sommes marquise d'Outreville et nous devons entrer partout. Mais par où commencer, voilà la question. Lucie ne peut pas aller de bout en blanc dire à des gens qui ne la connaissent pas « Ouvrez-moi votre porte, je suis la marquise d'Outreville. » Mais j'y songe. J'irai voir mes débiteurs, mes bons, mes excellents débiteurs. Ils me recevront sur un autre pied que la dernière fois. On traite cavalièrement la fille d'un fournisseur, mais on a des égards pour la mère d'une marquise. » Sa première visite fut pour le baron de Subressac. Elle ne conduisit Lucile ni chez lui ni chez ses autres débiteurs. À quoi bon apprendre à cet enfant combien elle en coûte pour ouvrir une porte. « Ah, cher baron, » dit-elle en entrant, « à quel maudit fou avons-nous donné ma fille ?» Le baron ne s'attendait pas à un pareil exorde. « Madame, » reprit-il un peu trop vivement, « le fou qui vous a fait l'honneur de devenir votre gendre le plus noble cœur que j'ai jamais connu. Hélas, mon Dieu, mais vous saviez ce qu'il a fait ? Marié depuis 8 jours, il a déjà abandonné sa femme. » Elle exposa, sans déguiser rien, tous les événements que le baron ignorait et que vous savez. À mesure qu'elle parlait, le sourire reparaissait sur les lèvres du baron. Lorsqu'il eut tout conté, il lui prit les mains et lui dit gaiement « Vous avez raison, charmante, le marquis est un grand coupable. » Il a abandonné sa femme comme le roi Ménélas abandonna la sienne. Mais monsieur Ménélas courut après Hélène, et je maintiens qu'un mari qui laisse partir sa femme sans la poursuivre l'abandonne. Heureusement, le cas est moins grave, car je ne vois point de Paris à l'horizon. Vous ramènerez votre fille à son mari. C'est votre devoir, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Ces enfants s'adorent, le bonheur leur semblera d'autant plus doux qu'il a été retardé. Vous assisterez à leur joie, vous jouirez du spectacle de leurs amours, et vous m'écrirez avant 10 mois pour me donner de leurs nouvelles. La jolie veuve étendit la main et dessina avec l'index un petit geste horizontal qui voulait dire « jamais ». « Mais alors, reprit le baron, que comptez-vous donc devenir ? Puis-je faire fond sur votre amitié, monsieur le baron ? Mais ne vous l'ai-je pas déjà prouvé, charmante ? Mais je ne l'oublierai de ma vie, si votre bienveillance ne me manque pas. J'ai de quoi me passer à tout jamais de monsieur d'Outreville. Et croyez-vous que la jeune marquise en dirait autant ? Oh non, ce n'est pas d'elle qu'il s'agit pour le quart d'heure. Les parents, en bonne justice, doivent passer avant les enfants. Qu'est-ce que je demande à Dieu et aux hommes ? L'entrée du faubourg. Et que faut-il m'y faire recevoir ? Que Lucilie soit admise. Or, elle a tous les droits imaginables, il ne lui manque qu'un introducteur. Refuseriez-vous de la présenter ? Absolument. D'abord, parce que cet honneur convient moins à un baron qu'à une baronne. Ensuite, parce que je ne veux pas contribuer au retardement du bonheur de Jaslon. Enfin, parce que toute ma bonne volonté ne vous servirait à rien, madame. Madame, votre fille a incontestablement le droit d'entrer partout, mais à quel titre ? Parce qu'elle est la femme de Gaston. Et comme femme de Gaston, elle trouvera la porte ouverte chez tous qui connaissent son mari, c'est-à-dire chez tous les nôtres. Et voyez si j'aurai bonne grâce à l'introduire en disant « Oh, mesdames et messieurs, vous aimez, vous estimez le marquis d'Outreville. Vous êtes ses parents, ses alliés ou ses amis. Permettez-moi donc de vous présenter sa femme, qui n'a pas voulu vivre avec lui. » Croyez-moi, charmante, c'est une expérience de 75 ans. Qui vous parle. Une jeune femme ne fait jamais bonne figure sans son mari, et la mère qui la promène ainsi toute seule hors de son ménage ne joue pas un rôle applaudi dans le monde. Si vous tenez absolument à coudoyer les duchesses, à les obtenir par de bons procédés que votre gendre vous amène à Paris, votre escapade l'a froissée, voilà pourquoi elle ne vient pas vous rejoindre. Si vous l'attendez ici, je le connais assez pour prédire que vous attendrez longtemps. Retournez à Arlange. Ne soyons pas plus fiers que Mahomet. La montagne ne venait pas à lui, il alla trouver la montagne. C'était assez bien parlé, mais Madame Benoît ne se le tint pas pour dit. Elle se présenta, passé midi, chez 5 ou 6 de ses débiteurs. Personne n'ignorait le mariage de sa fille, mais personne ne témoigna le désir de la connaître. On parla abondamment du marquis, on le peignit comme un galant homme, on loua son esprit, on regretta sa rareté et sa misanthropie, et l'on s'informa s'il passerait l'hiver à Paris. La veuve essaya en vain de replacer la pétition qu'elle avait adressée à M. de Soubresac. Elle ne put trouver d'ouverture. Elle se perdit pourtant pas l'espérance, et se promit bien de revenir à la charge. D'ailleurs, il lui restait encore une ressource, une ancre de salut qu'elle réservait pour les dernières extrémités, la comtesse de Malaisie. La comtesse était la femme qui lui devait le plus, et par conséquent, celle dont elle avait le plus à attendre. C'était une jolie petite vieille de 60 ans, à qui l'on ne reprochait rien que la coquetterie, la gourmandise, un amour effréné du jeu et la rage de jeter l'argent par les fenêtres. Madame Benoît se disait avec juste raison qu'une personne qui a tant de défauts à sa cuirasse ne saurait être invulnérable et qu'on doit, par un chemin ou par un autre, arriver jusqu'à son cœur. Elle jouissait déjà de la surprise du baron le jour où il la rencontrerait dans le monde entre Lucile et Madame de Malaisie. Tandis qu'elle faisait tant de visites inutiles, la jolie marquise d'Outreville
s'enfermait dans sa chambre et, sans prendre conseil de personne, écrivait à son mari la lettre suivante. « Que faites-vous, Gaston? Quand viendrez-vous? Vous avez pourtant promis de nous rejoindre. Comment avez-vous pu rester 10 grands jours sans me voir? Quand nous étions ensemble dans notre cher Arlange, vous ne saviez pas me quitter pour 1 heure. Dieu, que les heures sont longues à Paris. Maman me parle à chaque instant contre vous, mais à votre nom seul, il se fait dans mon cœur un tapage qui m'empêche d'entendre. Elle me dit que vous m'avez abandonné. Vous devinez que je n'en crois rien. Car enfin, je ne suis pas plus laide que lorsque vous vous mettiez à genoux devant moi. Et si je suis plus vieille, ce n'est pas de beaucoup. Tout n'est pas fini entre nous. Le dernier mot n'est pas dit et je sens que j'ai encore du bonheur à vous donner. Vous n'êtes pas homme à fermer un si bon livre à la première page. Moi, depuis que je ne vous ai plus, je suis toute hébétée, toute languissante. Imaginez-vous que par moments, je crois que je ne suis pas votre femme et que cette belle cérémonie de l'église et ce bal où nous étions si heureux sont un rêve qui a trop tôt fini. Ce qui n'était pas un rêve, c'est ce baiser que vous m'avez donné. J'ai reçu bien des baisers depuis que je suis né, mais aucun ne m'était entré si avant dans le cœur. C'est sans doute parce que celui-là venait de vous. Tout ce qui vous appartient a quelque chose de particulier que je ne sais comment définir. Par exemple, votre voix est plus pénétrante qu'aucune autre personne n'a jamais su dire Lucile comme vous. Mais pourquoi n'êtes-vous pas ici, mon cher Gaston? Ce baiser que vous m'avez donné, je serais si heureuse de vous le rendre. Cela ne serait pas mal, n'est-ce pas, puisque je suis votre femme? Vous n'imaginerez jamais combien vous me manquez. Quand je sors avec maman, je vous cherche dans les rues. Tout ce que j'ai vu à Paris jusqu'à présent, c'est que vous n'y êtes pas. Le soir, je m'embrouille régulièrement votre nom dans mes prières. Le matin, en m'éveillant, je regarde si vous n'êtes point autour de moi. Est-il possible que je pense tant à vous et que vous m'ayez oublié? Peut-être m'en voulez-vous de vous avoir quitté si brusquement et sans vous dire adieu. Si vous saviez, ce n'est pas moi qui suis parti, c'est maman qui m'a enlevé. Je croyais que vous alliez nous rattraper avec la vieille chaise de poste et les bagages. Maman me l'avait assuré. Pierre aussi, Julie aussi. Oh, j'ai bien pleuré, allez, quand j'ai su qu'on m'avait fait un si méchant mensonge. Et depuis ce temps-là, je pleurerai toute la journée si je ne me retenais pas. Mais je rentre mes larmes, d'abord pour ne pas être grondé, et puis pour que vous ne me trouviez pas avec des yeux rouges. Il ne faut point vous fâcher si je ne vous ai pas écrit plus tôt. Vous aviez fait dire que vous arriviez, et lorsqu'on attend quelqu'un, on ne lui écrit pas. Maintenant, je vous écrirai jusqu'à ce que je vous ai vu. Il faut que je n'ai pas beaucoup d'amour propre, car j'écris comme un petit chat, je ne sais guère aligner mes phrases. C'est que je n'avais jamais écrit à personne, n'ayant ni oncle, ni tante, ni ami de pension. J'espère que vous ne me laisserez pas me ruiner en frais de style, et que vous partirez à ma première réquisition. Venez, laissez la forge. Il n'y a plus d'affaires au monde tant que nous sommes séparés. Je vous réconcilierai avec maman, à la condition qu'elle fera tout ce que vous voudrez et qu'elle ne vous demandera rien de désagréable. Et si le séjour de Paris vous déplaît autant qu'à moi, soyez tranquille, nous n'y resterons pas longtemps. Mais si vous n'arrivez pas, que voulez-vous que je devienne? Il me serait assez facile de me sauver de l'hôtel un jour que maman serait sortie sans moi, mais je ne peux pourtant pas courir les grands chemins toute seule. Cependant, si vous l'exigiez, je partirais. Je me mettrais sous la protection de Jacquet. Mais quelque chose me dit que vous ne me ferez prier ni attendre. Pensez seulement à 2 petites mains rouges qui sont tendues vers vous. Madame Benoît entra tandis que Jacquet portait cette lettre à la poste.
Tu t'es pas ennuyée toute seule? Demanda la mère à sa fille.
Oh non, maman,
répondit la marquise.
Chapitre 4. Les jours suivants furent des jours d'attente. Lucile attendait Gaston comme s'il pouvait déjà avoir reçu sa lettre. Madame Benoît espérait que ses nobles débiteurs lui rendraient ses visites. La mère et la fille restèrent donc à la maison, mais non pas ensemble. L'une était assise devant une fenêtre du salon, les yeux braqués sur la porte cochère. L'autre se promenait sous les marronniers du jardin, les yeux tournés vers l'avenir. Madame Benoît comptait sur son luxe pour se faire des amis. Elle se promettait de montrer les beaux appartements du rez-de-chaussée. « Nous aurons du malheur, pensait-elle, si personne ne nous offre, en attendant, une tasse de thé. On offre volontiers à qui peut rendre. » Le salon, tendu de fleurs éblouissantes, avait un air de fête. La maîtresse était en toilette du matin au soir, comme les officiers russes qui ne se dépouillent jamais l'uniforme. En attendant que la maison fût montée, Jacquet, transformé par une livrée neuve, faisait, sous le vestibule, son apprentissage du métier de laquais. Les cœurs sensibles seront peinés d'apprendre que toute cette dépense fut faite en pure perte. Aucun débiteur ne se présenta chez Madame Benoît. Que voulez-vous? Le pli était pris. Ces messieurs et ces dames s'étaient fait une habitude de ne la payer ni en argent ni en politesse et de ne lui rendre rien, pas même ses visites. Elle méditait tristement derrière un rideau sur l'ingratitude des hommes, lorsqu'un coupé, lancé au grand trot, fit crier harmonieusement le sable de la cour. La jolie veuve sentit son cœur bondir. C'était la première fois qu'une autre voiture que la sienne venait tracer deux ornières devant sa porte. La voiture s'arrêta. Un homme, encore jeune, en descendit. Ce n'était pas un débiteur. C'était 100 fois mieux. Le comte de Preux en personne. Il disparut sous le vestibule et Madame Benoît, avec la promptitude de la foudre, passa la revue de son salon, jeta un suprême coup d'œil à sa toilette et prépara les premières paroles qu'elle avait à dire. Elle avait pourtant assez d'esprit pour s'en remettre au hasard de l'improvisation. Le comte tarda quelque peu. Elle maudit Jacquet, qui le retenait sans doute dans l'antichambre. Mais pourquoi la porte ne s'ouvrait-elle pas? Elle aurait couru au devant de son noble visiteur, si elle n'eût craint de se nuire par un excès d'empressement. Enfin, la portière se souleva. Un homme parut. C'était Jacquet. « Faites entrer !» dit la veuve haletante.
« Qui ça, madame ?» répondit Jacquet, de cette voix traînarde qui distingue les paysans lorrains.
Ben, « Le comte !»«
Ah, c'est un comte. Eh ben, le v'là dans la cour. »
Madame Benoît courut à la fenêtre et vit M. de Preux regagner sa voiture sans retourner la tête et donner un ordre au cocher.
« Mais cours après lui, dit-elle à Jacquet. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?»« Madame, c'est un homme très bien, pas fier du tout. Il vient probablement de la campagne, car il croyait que monsieur le marquis était ici. Alors moi, j'ai dit qu'il n'y était pas, voilà. »« Ben, mais si, il t'a pas dit que madame y était ?»« J'y fais, madame, je l'ai dit, mais il n'a pas eu l'air d'entendre. »«
Mais il fallait le répéter. »«
Et le temps ?» Oh, il s'est mis tout de suite à me demander quand monsieur reviendrait. Faut croire que son idée était de parler à monsieur.
Et qu'as-tu répondu?
Ma foi, qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser avec monsieur, qu'il n'avait pas l'air de vouloir revenir. Et alors, comme il n'était pas fier du tout et qu'il avait l'air de se plaindre avec moi, je lui ai dû raconter la bonne farce que madame et mademoiselle ont faite à monsieur.
Oh, misérable! « Je te chasse, va-t'en. Combien te doit-on »«
Je ne sais pas, madame. »«
Combien gagnes-tu par mois ?»«
9 francs, madame. »« Oh, ne me chassez point, je n'ai rien fait. »« Je ne le ferai plus. »« et des larmes. Combien y a-t-il de temps qu'on t'a payé ?
2 mois, madame. Mais qu'est-ce que vous voulez que je devienne si vous me chassez ?
Arrive ici, voici tes 18 francs. Et voilà 20 autres que je te donne pour que tu aies le temps de chercher une place. Allez, va !
Jacquet prit l'argent, regarda si son compte y était, et tomba à genoux en criant
« Grâce, madame, je suis pas méchant, j'ai jamais fait de mal à personne. »
« Maître Jacquet, sachez que la bêtise est le pire de tous les vices. »«
Pourquoi ça, madame ?»
hurla Jacquet.
« Mais parce que c'est le seul dont on ne se corrige jamais. »
Elle le poussa au dehors et vint se jeter sur une causeuse. Jacquet sortit de l'hôtel en portant, comme le philosophe Bias, toute sa fortune avec lui. Si quelqu'un l'avait suivi, on aurait entendu murmurer d'une voix désolée « 62 et 8 font 70 et 80 et 20 100, mais j'ai tué la poule, j'aurai plus 9 !»
Lucile apprit au dîner la disgrâce de Jacquet, mais elle n'osa en demander la cause. La mère et la fille, l'une triste et inquiète, l'autre maussade et grondeuse, mangeaient du bout des doigts sans rien dire, lorsqu'on apporta une lettre pour madame d'Outreville.
« Oh, de Gaston !» s'écria-t-elle.
« Malheureusement, non. L'adresse portait le timbre de Passy. C'était madame Céline Jordy, née Mélier, qui se rappelait au souvenir de son amie. Lucile lut à haute voix. « Ma jolie pays, je t'écris en même temps à notre hameau et à Paris, car depuis ton mariage, tu m'as si bien délaissé que je ne sais plus ce que tu es devenue. »
Moi, je suis heureuse, heureuse, heureuse. C'est en 3 mots toute mon histoire. Si tu veux de plus amples détails, viens me chercher ou dis-moi en quel lieu tu te caches. Robert est le plus parfait de tous les hommes, à part M. d'Outreville, que je connaîtrai quand tu me l'auras fait voir. Quand donc pourrais-je t'embrasser? J'ai 1000 secrets que je ne peux dire qu'à toi. N'es-tu pas depuis 16 ans mon unique confidente? Je suis curieuse de savoir si tu me reconnaîtras sans que j'écrive mon nom sur mon chapeau. Toi aussi, tu dois être bien changé. Vous étiez aussi enfant, toi, il y a 15 jours, moi, il y a 3 semaines. Viens demain, si tu es à Paris, quand tu pourras, si tu es à Arlange. J'aime à croire que nous ne ferons pas les marquises et que nous nous verrons tant que nous pourrons, sans jamais compter les visites. Me tarde de te montrer ma maison, c'est le plus charmant lit de bourgeois qui ne soit jamais bâti sur la terre. Libre à toi de m'humilier ensuite par le spectacle de ton palais, mais il faut que je te voie. Je le veux. C'est un mot auquel personne n'a désobéi à Passy, rue des Ezuel, numéro 16. À bientôt, je t'embrasse sans savoir où, à l'aveuglette. Ta Céline.
« Chère Céline, oh, j'irai demain passer la journée avec elle. Vous n'avez pas besoin de moi, maman. »«
Non, non, je sors de mon côté pour voir une de mes amies. »«
Mais qui donc, maman ?
Ben, tu ne la connais pas, la comtesse de Malaisie. »
Il y avait 12 ou 13 ans que madame Benoît n'avait vu cette vénérable amie en qui elle mettait sa dernière espérance. Elle la trouva peu changée. La comtesse était devenue sourde à force d'entendre les cris ahuris de ses créanciers, mais c'était une surdité complaisante, voire un peu malicieuse, qui n'empêchait pas d'entendre ce qui lui plaisait. Du reste, l'œil était bon et l'estomac admirable. Madame de Malaisie reconnut sa créancière et la reçut avec une touchante familiarité.
« Bonjour, petite, bonjour !» lui dit-elle. Je ne vous ai pas défendu ma porte. Vous avez trop d'esprit pour venir me demander de l'argent.
Oh, madame la comtesse, je ne vous ai jamais fait de visite intéressée.
Ma chère petite, tout le portrait de son père. Ah, mon enfant, Lopino était un brave homme.
Vous me comblez, madame la comtesse.
Comprenez-vous qu'on vient demander de l'argent à une pauvre femme comme moi? Il n'y a pas un an que j'ai marié ma fille au marquis de Croix-Mongard.
C'est une bonne affaire, j'en conviens, mais ce mariage m'a coûté les yeux de la tête. »
Mademoiselle de Malaisy n'avait pas reçu un centime de dot.
« Bien moi, madame, je viens de marier ma fille au marquis d'Outreville. Plaît-il, comment appelez-vous cet homme-là ? »
Madame Benoît fit un cornet de ses deux mains et cria
« Le marquis d'Outreville !»« Bien, bien, j'entends, mais quelle Outreville ? Il y a les beaux Outreville et les faux Outreville et des beaux, il n'y en reste pas beaucoup. »«
C'est un bon. »«
En êtes-vous bien sûr ? Est-il riche ?»
Non, il n'avait rien.
Oh, tant mieux pour vous. Les mauvais sont riches en diable. Ils ont acheté la terre et le château et pris le nom par-dessus le marché. Et quel nez a-t-il ?
Qui ?
Votre gendre.
Bah, un nez aquilin.
Vous avez fait mon compliment. Les faux Outreville ont de vrais magots. Tous ce nez en pied de marmite.
Mais c'est celui qui est sorti de l'école polytechnique.
« Mais je le connais, un peu fou, oh, c'est un bon. Mais alors, vous qui êtes une femme de sens, expliquez-moi comment il a commis cette sottise-là. »
Ce fut au tour de Madame Benoît de faire la sourde oreille. La comtesse reprit.
« Je dis, la sottise d'épouser votre fille. Elle est donc bien riche.
Mais elle avait 100 000 francs de rente en mariage. »
« Oh, nous autres bourgeois, nous avons gardé l'habitude de donner des dots à nos filles. Attrape. »« N'importe, cela m'étonne de lui. Lui, croyez-la mieux située. Vous comprenez, petite, que je ne dirais pas cela s'il était ici, mais nous sommes entre nous. »« Qu'y a-t-il, Rosine ?»«
Madame, répondit la femme de chambre, c'est ce commis du bon Saint-Louis. »
« Oh, je n'y suis pas. Non, non. Oh, ces marchands sont devenus insupportables. Ah, petite, votre père était un galant homme. Je disais donc que le marquis sera blâmé de tout le monde. Personne ne lui reprochera en face. Son nom est à lui, il le traîne où il veut, mais il n'est pas permis à un véritable Outreville de... sans... enfin, de se baiser... Oh, qu'est-ce encore, Rosine ? Madame, c'est Monsieur Majou. « J'y suis pas. Je suis sorti pour la journée. Je viens de partir pour la campagne. »« Ah, t'as vu un marchand de vin pareil. Les créanciers d'aujourd'hui sont pires que les mendiants. On a beau les chasser, ils reviennent toujours. »« Ah, petite, votre père était un saint homme. Votre fille est-elle jolie, au moins ?»«
Madame, j'aurai l'honneur de vous la présenter un de ces jours, dans l'après-midi. Mon gendre est dans nos terres. »
« C'est cela, amenez-la-moi un matin, cette jeunesse. J'y suis pour vous jusqu'à midi. »« Encore, Rosine, mais c'est donc une procession aujourd'hui. »« Madame, c'est Monsieur Bougnol. »« Oh, répondez qu'on me pose des sangsues. »« Madame, je vous ai déjà dit que Madame la Comtesse n'y était pas. »« Il répond qu'il est venu 5 fois en 8 jours sans voir Madame et que si on refuse de le recevoir, il ne reviendra plus. » « Eh bien, qu'il entre, je lui dirai son fait. »« Vous permettez, petite, nous sommes gens de revue. »« Ah, ma chère, votre père était un grand homme. »
Madame Benoît disait tout bas en remontant dans sa voiture.
« Raille, raille, impertinente vieille, tu as des dettes, j'ai de l'argent, je te tiens. Dut-il m'en coûter 500 louis ? Je prétends que tu me conduises par la main jusqu'au milieu du salon de ta fille. »
C'est dans ces sentiments qu'elle se sépara de la comtesse. Lucile était depuis longtemps dans les bras de son amie. Elle partit de l'hôtel à la nuit, 8 heures, et descendit 1 heure après devant la plus belle grille de la rue des Tilleuls. La matinée était magnifique, la maison et le jardin baignaient dans la lumière du soleil. Le jardin, tout en fleurs, ressemblait à un bouquet immense. Une pelouse émaillée de rosiers du roi s'encadrait dans un cercle de fleurs jaunes comme un jaspe sanguin dans une monture d'or. Un grand acacia laissait pleuvoir ses fleurs sur les arbustes d'alentour et livrait au vent du matin ses odeurs enivrantes. Les merles noires au bec doré volaient en chantant d'arbre en arbre. les roitelets sautillaient dans les branches de l'aubépine et les pinsons effrontés se poursuivaient dans les allées. La maison, construite en briques rouges rehaussées de points blancs, semblait s'ouvrir à ce luxueux heureux qui s'épanouissait autour d'elle. Tout ce qui grimpe et tout ce qui fleurit, fleurissait et grimpait le long de ses murs. La glycine aux grappes violettes, le bignonia aux longues fleurs rouges, le jasmin blanc, la passiflore, l'aristoloche aux larges feuilles et la vigne vierge qui s'empourpre au dernier sourire de l'automne élevaient jusqu'au toit leurs tiges entrelacées. De grosses nattes de volubilis fleurissaient au niveau de la porte et le grelot bleu des cobas pavoisait toutes les fenêtres. Ce spectacle réveilla chez la marquise les plus doux souvenirs d'Arlange, et en ce moment elle eut donné pour rien son hôtel de la rue Saint-Dominique et ce jardin trop étroit où les fleurs étouffaient entre l'ombre pesante de la maison et le feuillage épais des vieux marronniers. Un peignoir de foulard écru, à demi caché dans un bosquet de rhododendron, l'arracha brusquement de sa rêverie. Elle courut et ne s'arrêta que dans les bras de Madame Jordy. Avez-vous jamais observé au théâtre la rencontre d'Oreste et de Pylade? Si habiles que soient les acteurs, cette scène est toujours un peu ridicule. C'est que l'amitié des hommes n'est de sa nature ni expansive ni gracieuse. Un gros serrement de main, un bras grotesquement passé autour d'un cou, ou l'absurde frottement d'une barbe contre une autre ne sont pas des objets qui puissent charmer les yeux. Que la tendresse des femmes est plus élégante et que les plus gauches sont de grands artistes en amitié. Céline était une toute petite blonde, potelée et rondelette, au front bombé, au nez en l'air, montrant à tout propos ses dents blanches et aiguës comme celles d'un jeune chien, riant sans autre raison que le bonheur de vivre, pleurant sans chagrin, changeant de visage 20 fois en 1 heure, et toujours jolie sans qu'on n'ait jamais pu dire pourquoi. Heureusement pour le narrateur de cette véridique histoire, la beauté n'est pas sujette à définition, car il me serait impossible de dire par quel charme Mademoiselle Madame Mélier a séduit son mari et tous ceux qui l'ont aperçu. Elle n'avait rien de particulièrement beau, si ce n'est la rondeur de sa taille et l'éclat de son teint, et deux petites fossettes très gentilles, quoique ne fussent pas placées avec toute la régularité désirable. Lucile ne ressemblait en rien à Madame Jordy. Si l'amitié vit le contraste, leur liaison devait être éternelle. La jeune marquise avait la tête de plus que son amie et l'embonpoint de moins. Je vous avertis que sa jeunesse était une fleur tardive. Imaginez la beauté maigre et nerveuse de Diane, chasseresse. Avez-vous vu quelquefois, dans les admirables paysages de M. Corot, ces nymphes aux corps sveltes, à la taille élancée, qui dansent en rond sous les grands arbres en se tenant par la main? Si la marquise d'Outreville venait se joindre à leur jeu, sans autre vêtement qu'une tunique, sans autre coiffure qu'une flèche d'or dans les cheveux, le cercle vivant s'élargirait pour lui faire place, et l'on continuerait la ronde avec une sœur de plus. Par un caprice du hasard, la reine des bois d'Arlange était ce matin-là en chapeau de crêpe blanc et en robe de taffetas rose, et la petite bourgeoise blonde était vêtue comme une habitante des bois, chapeau de paille, habit flottant. « Ah, que tu es bonne d'être venue, » dit-elle à la marquise. « Dispensez-moi de noter tous les baisers dont les deux amis entrecoupèrent leur discours. J'avais rêvé de toi. Depuis combien de temps es-tu à Paris, ma belle ?»« Depuis le lendemain de mon mariage. 15 jours perdus pour moi, mais c'est affreux. »« Ben, si j'avais su te trouver, » murmura la petite marquise. « Oh, j'avais bien besoin de te voir. »« Et moi donc ? Allez, d'abord, regarde-moi entre les deux yeux. Ai-je bien l'air d'une dame ? Me diras-tu encore mademoiselle ?
Oui, c'est vrai, tu as je ne sais quoi de plus assuré, un air de gravité. Mais pas un mot de plus ou je meurs de rire. Et toi, voyons, tu es toujours la même? Bonjour, mademoiselle. Votre servante, madame. Madame, quel joli mot. Si vous êtes bien chargé à déjeuner, je vous appellerai madame au dessert. Oh, te souviens-tu du temps où nous jouions à la madame? Bon, il n'est pas assez loin pour que je l'aie oublié. Allez, venez, mademoiselle, que je vous promène dans mon jardin. Vous ne toucherez pas aux fleurs. Tout en causant, elle cueillit une énorme poignée de roses derrière laquelle elle disparaissait tout entière. « Mais je demande grâce pour ton beau jardin !» cria Lucille. « Ah, d'abord, je te défends de l'appeler mon beau jardin. Tout le monde le voit, tout le monde y vient. C'est le jardin de tout le monde, mon beau jardin est là-bas, derrière ce haut mur. Il n'y a que deux personnes qui s'y promènent, Robert et moi. Tu seras la troisième. Bien, vois-tu cette porte verte? À qui arrivera la première ?» Elle brit sa course, Lucille la suivit et l'eut bientôt devancée. Madame Jordy, en arrivant, tira une petite clé de sa poche et ouvrit la porte. « Ceci, dit-elle, est notre parc réservé. Ces tilleuls, dont les fleurs ont des ailes, ne fleurissent que pour nous. Nous nous promenons ici, en tête à tête, tous les matins, avant l'heure du travail, car nous sommes des oiseaux matineux. J'ai gardé mes bonnes habitudes d'Arlange. Quant à Robert, je ne sais comment il s'y prend, mais j'ai beau m'éveiller matin, je le trouve toujours accoudé sur l'oreiller, occupé gravement à me regarder dormir. » Bien peu de ce côté. Ici, l'ancien propriétaire avait construit une grande bête de grotte humide, tapissée de rocailles et de coquillages, avec un Apollo en plâtre au milieu et des crapauds partout. Robert l'a fait démolir aux trois quarts. Il a amené ici l'air et la lumière. C'est lui qui a disposé ses plantes grimpantes, suspendu ses hamacs, installé cette jolie table et ses fauteuils. Oh, il a du goût comme un ange. Il est architecte, il est tapissier, il est jardinier. Il est tout. Assieds-toi seulement un peu sur cette mousse. Non, oh non, j'oubliais ta robe neuve. Oh, moi, voici ce que je mets tous les matins avec cela. On peut s'asseoir partout. Allons-nous-en. Mais pas encore, on est si bien sous ces beaux arbres. Mais nous y reviendrons tout à l'heure pour déjeuner. Viens voir notre maison. Ensuite, je te montrerai mon mari. Il est à la fabrique. Tu verras, ma Lucille, comme il est beau. Tu te rappelles les plaisanteries que nous faisions autrefois sur notre idéal? Mon idéal, à moi, était un grand brun avec des moustaches en croc et des sourcils noirs comme de l'encre. Eh bien, ma chère, mon mari ne ressemble pas à cela, mais pas du tout. Il n'est pas plus grand que papa. Ses cheveux sont châtains et il porte une jolie barbe blonde, douce comme de la soie, car n'a jamais été rasée. Maintenant, je trouve que mon idéal était affreux, et si je le rencontrais dans la rue, j'en aurais peur. Robert est doux, délicat, tendre. Il pleure, ma chère. Hier, la nuit tombante, il était assis auprès de moi, nous faisions des projets. J'exposais mes petites idées sur l'éducation des enfants. Il me laissait parler toute seule et cachait sa tête dans ses mains comme pour regarder en lui-même. Quand j'eus fini, il m'embrassa sans rien dire et je sentis une grosse larme couler sur ma joue. Que c'est beau, des larmes d'homme! Maman m'aime bien, mais elle ne m'a jamais aimé comme cela. Et ce que tu ne croiras jamais, c'est qu'avec les hommes, il est fier, raide et terrible par moments. On m'a conté que l'année dernière, nos ouvriers avaient voulu se mettre en grève pour faire chasser un contremaître. Bien, il a su le complot à temps. Il a marché droit sur les meneurs au milieu de 50 ou 60 hommes mutinés contre lui et il a fait rentrer la révolte sous terre. Tout le monde le craint dans la maison, excepté moi. Juge si j'ai lieu d'être fier. Il me semble que je fais marcher tout ce peuple qui lui obéit. Oh, ma Lucie, l'admirable chose que le mariage. La veille, on était deux, le lendemain, on ne fait plus qu'un. On a tout en commun, on est les deux moitiés d'une même âme. On tient seulement comme ces deux frères siamois qui ne peuvent se séparer sans mourir. Voici notre chambre, qu'en dis-tu? Il m'a choisi la tenture comme une robe bleue en l'honneur de mes cheveux blonds. Au fait, qu'est-ce qu'une tenture? Une toilette qui nous habille de loin. Toi, ma brune aux yeux noirs, tu dois avoir une chambre de satin rose. Mais je crois que oui, reprit Lucille, toute rêveuse. Mais comment je crois? Mais tu ne réponds comme une anglaise. Mais je suis anglaise aussi sur un point. Ne va pas t'imaginer que tout le monde entre ici comme dans la rue. On a sa discrétion et sa délicatesse. Si tu n'étais pas toi, tu ne serais pas assise dans ce fauteuil-là. Sais-tu que je fais mon lit moi-même? Il est vrai que Robert m'aide un peu. Lucille ne répondit rien. Elle contemplait d'un œil pensif un magnifique fouillis de dentelles et de broderies, au milieu duquel deux larges oreillers reposaient côte à côte. La porte s'ouvrit et M. Jordy entra étourdiment en jetant son chapeau de paille. À la vue de Lucille, il s'arrêta tout interdit et fit un salut respectueux. Sa femme lui sauta au cou sans façon et lui dit en montant la marquise par un geste plein de grâce et de simplicité « Robert, c'est Lucille !» Ce fut toute la présentation. M. Jordy fit à Lucille un petit compliment sans cérémonie qui prouvait qu'il avait souvent entendu parler d'elle et qu'elle n'était pour lui ni une étrangère ni une indifférente. Il s'assit et sa femme trouva moyen de se glisser auprès de lui. « N'est-ce pas qu'il est beau ? » dit-elle à la marquise. « Mais d'où vient-il ? Oh, il faut qu'il ait couru, il est en âge. » Et d'un geste aussi prompt que la parole, elle passa un mouchoir de batiste sur le front du jeune homme qui essayait en vain de se défendre. M. Jordy avait plus de monde que Céline, mais il eut beau lui lancer des regards qui voulaient être sévères. La petite indigène d'Arlange lui prit les deux mains sur les yeux et baissa effrontément ses paupières fermées. « Ne me gronde pas, lui dit-elle. Lucille est mariée depuis 15 jours, c'est-à-dire aussi folle que nous. » La pendule sonna midi, c'était l'heure du déjeuner. On courut au jardin et l'on s'attabla joyeusement sous ces beaux tilleuls qui ont donné leur nom à la rue voisine. Aucun domestique n'assistait au repas. Chacun se servait soi-même et servait les autres. Les deux amis, élevés au village et étrangères aux mièvreries de l'éducation parisienne, n'étaient pas des buveuses d'eau. Elles tempèrent leurs lèvres dans un joli vin palier que M. Jordy alla chercher à quelques pas de là, dans un ruisseau d'eau courante. Robert plut facilement la marquise. Sans manquer d'esprit ni d'éducation, il était simple, plein de cœur et du bois dont on fait les meilleurs amis. Du reste, nous éprouvons tous une sympathie naturelle pour les visages où rayonne la joie. Il n'y a que les égoïstes qui n'aiment pas les heureux. Céline, qui voulait dire faire briller son mari, le força de chanter au dessert. Il choisit une des plus belles chansons de Béranger, quoique le vieux poète ne fût déjà plus à la mode. Les oiseaux, réveillés au milieu de leur sieste, exécutèrent un joyeux accompagnement au-dessus de sa tête. Lucille chanta à son tour, sans se faire prier, des paroles qui n'étaient pas italiennes. On plaisanta comme plaisantent les honnêtes gens. On parla de tout, excepté du prochain et de la pièce nouvelle. On rit à cœur ouvert et personne ne s'aperçut qu'il y avait un peu de fièvre dans la gaieté de la marquise. « Pourquoi M. de Treville n'est-il pas ici ?» disait Mme Jordy. « On s'aime bien à deux, mais à quatre, c'est la concurrence. » Vers 2 heures, M. Jordy s'enfuit à ses affaires et les deux amis reprirent le cours de leur confidence. Céline parlait sans se lasser, sans s'apercevoir qu'elle faisait un monologue. Les femmes sont merveilleusement organisées pour les travaux microscopiques. Elles excellent à détailler leurs plaisirs et leurs peines. Lucile, émue, haletante, écoutait, apprenait, devinait, et quelquefois aussi ne comprenait pas. Elle était comme un navigateur jeté dans la tempête dans un pays enchanté, mais dont il n'entend pas la langue. L'heure du dîner approchait. Céline parlait encore et Lucile écoutait toujours. « Quant aux enfants, disait la jeune femme, écoute un peu le paragraphe que j'ai ajouté à mes prières. Vierge sainte, si mon cœur vous semble assez pur, bénissez mon amour et obtenez que j'ai le bonheur d'avoir un fils pour lui enseigner la crainte de Dieu, le culte du bien et du beau et tous les devoirs de l'homme et du chrétien. » Ce dernier trait acheva la pauvre Lucile. Le torrent de larmes qu'elle retenait depuis longtemps rompit les digues, et son joli visage en fut inondé. « Mais tu pleures ?» cria Céline. « Oh, je t'ai fait de la peine !»« Oh, Céline, je suis bien malheureuse. Maman m'a forcé de partir le soir de mon mariage, et je n'ai pas revu mon mari depuis le bal. »« Le soir, depuis le bal ? Oh, miséricorde !» Et Lucile raconta sommairement son histoire. « Mais comment n'as-tu pas écrit à ton mari ?» demanda Céline. « Je lui ai écrit. Et quand ?»« Il y a 4 jours. »« Eh bien, mon enfant ne pleure plus. Il arrivera ce soir. » À dîner, la table était élégante, la salle à manger claire et joyeuse. Les derniers rayons du soleil couchant jouaient avec les stores et les jalousies. Le petit vin paillait, parait dans les bars, et M. Hordy caressait d'un regard radieux le joli visage de sa femme, mais Céline conservait la gravité d'une matrone romaine, et je crois, Dieu me pardonne, qu'elle dit « vous » à son mari. La marquise repartit à 10 heures. Céline et son mari la ramenèrent à sa voiture. En apercevant le cocher, Madame Jordy eut comme une inspiration subite. « Pierre, dit-elle d'un ton indifférent, monsieur le marquis est-il arrivé ?»« Oui, madame. » La marquise se jeta dans les bras de son ami en poussant un cri. « Mais qu'y a-t-il ? » demanda Robert. « Rien, dit Céline. »